J'ai débuté une série à la télé, une série bizarre qui s'intitule Les avocats du diable.
Oh.
Et c'est vraiment les avocats qui ont eu à défendre les plus grands criminels américains.
Ah, c'est bon.
Ouais, vraiment intéressant. Puis dans les deux cas, j'en ai deux d'écouter jusqu'à maintenant. C'était l'avocat de Timothy McVeigh. Qui a fait l'attentat de Oklahoma City où il y a eu 168 morts. Et bon, lui, c'était particulier. Et dans les deux cas, puisque l'autre, c'est Waco, c'est les survivants de Waco, David Koresh, là, les Davidiens qui étaient barricadés au Texas dans cette petite ville de Waco et où il y a eu un drame épouvantable. Mais avant d'aller à Waco, juste vous dire, puis il y a quand même un lien entre les deux, parce que quand Waco arrive en avril 93, Timothy McVeigh était là, était aux abords de cette barricade qui a duré 51 jours.
Dans stage.
Il était allé voir ça, ouais. Timothy McVeigh, là, c'est un soldat américain qui est allé très haut dans la hiérarchie des soldats. Voyons, Baptiste.
Ah, c'est Siri. Toi, ça?
C'est Marjo. Bonjour, Siri. C'est parti.
C'est Marjo qui parle.
Comment ça, qui se
pas capable de l'arrêter.
C'est Wagon Wheel. OK. Ce qui s'est
Timothy
passé.
Timothy McVeigh est allé.
Timothy McVeigh est allé servi, là, lui. Supporter ça. Après qu'il ait servi les forces américaines, il a été même sélectionné pour être sur l'élite de l'armée américaine, là, vraiment dans les hyper formés.
Il
trippait dessus,
là.
Oui, oui, oui. Oui, exactement. Mais à un moment donné, il est tombé dans un marasque. Il est devenu le garde du corps du gars qui. Desert Storm, là, du grand chef de l'armée américaine. Il était son garde du corps. Fait que, tu vois que c'est quelqu'un avec qui on avait confiance, mais à un moment donné, ils l'ont échappé ben raide.
Monsieur Schwarzkopf.
Oui, exactement, M. Schwarzkopf. C'était le garde du corps de Schwarzkopf. Fait que, tu sais, donc c'est quelqu'un qui était quand même influent, ou pas influent, mais impliqué dans des hauts niveaux. Puis à un moment donné, ben là, ça a chiré et il a, avec des complices qu'on n'a jamais été capable d'identifier, fabriqué la bombe qui a fait exploser ça. Et c'est pas pour parler de McVeigh, mais plutôt parler de son avocat qui a voulu lui sauver la vie, hein, l'avocat qui a pris ça. Puis ce sont de jeunes avocats, souvent dans des cas comme ça, qui vont prendre ça pro bono, parce que faut pas oublier que Timothy McVeigh, lui, ne voulait pas se défendre de ça. Dans sa tête de gars malade, il voulait tellement envoyer un message anti-gouvernement il voulait assumer son geste jusqu'au bout et que c'est l'avocat et il refusait de voir les avocats. Puis à un moment donné, je me souviens pas quelle phrase il a utilisée, mais son avocat il a dit garde, écoute, là si tu veux plus que je vienne à la prison, je viendrai plus. Mais c'est pas comme ça que tu vas défendre les droits des gens qui ont une vision différente du gouvernement. Et là, il a réussi à le ramener comme ça et à essayer d'empêcher qu'on le tue. Mais évidemment, c'était beaucoup trop fort. La pression aux États-Unis était beaucoup trop forte pour le geste qu'ils avaient commis. C'est allé vite le procès, puis il a été condamné. C'est drôle parce qu'il y a un seul argument qui donnait raison à l'avocat de dire qu'il avait pas fait ça tout seul, puis qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui avait amené le camion avec les explosifs devant le bureau, c'est qu'on a retrouvé une jambe gauche qui appartenait à personne. On avait une jambe gauche de trop. Tu comprends? Mettons, là, au niveau des corps, là, dit comme ça, là, où il y a personne de manquant, mais on a une jambe gauche de trop. Fait que vous voyez le genre de conflit. Mais donc, lui, c'est un jeune avocat qui a fait sa marque à travers ça. Mais hier, j'écoutais, c'était le procès de Clive Doyle. Lui, Clive Doyle, là, c'est un bonhomme qui était dans la gang à David Koresh. Donc, les Davidiens, genre de secte religieuse. Et ils étaient, quoi, un peu plus de 90 dans ce bâtiment-là, à Waco, au Texas. Et ils s'étaient barricadés là, tous ces Davidiens-là, beaucoup de femmes et d'enfants. Vraiment une secte, là, un peu comme on en a vu partout en Amérique. Et ce qui m'a frappé hier, c'est qu'il y a eu seulement 11 survivants de cette tragédie-là. Faut savoir que ça a eu lieu en deux temps. Tout d'abord, eux, ils étaient barricadés là, puis ils se disaient au FBI et à l'ATF, qui est un organisme gouvernemental, qui allait être dissous parce qu'on y voyait plus ou moins d'utilité. Puis on dirait que cette branche du gouvernement-là, l'ATF, a voulu faire un coup d'éclat, un coup de pub. D'ailleurs, quand ils ont préparé le premier assaut, à ce building-là, à cette grange-là, ou à cette immense maison avec écurie, là, c'était tout dans un même pain, ils ont avisé les médias. Et en avisant les médias, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un des médias pour qui ça a coulé. Il attaque demain matin, 8 heures. Ça s'est dit à l'épicerie. Et à l'épicerie, il y avait quelqu'un des Davidiens qui était là. Donc, on a pu se préparer à l'intérieur. Et quand l'ATF a débarqué, il y avait des gens armés à l'intérieur de la maison. Et il y a 4 agents de l'ATF qui ont été tués. Évidemment, là, ils se sont retirés et c'est le 19 avril 93 qu'ils sont débarqués, le FBI, avec des chars d'assaut. Et quand ils se sont approchés de la maison, ils ont même pas eu besoin de tirer. Il y a des gens, des Davidiens qui ont sacré le feu dans la maison. Ouais. Et 82, les femmes, les enfants surtout, sont morts dans cet incendie-là. Ce qui est impressionnant là-dedans, là, c'est que il y avait rien contre le groupe comme tel. Il y avait un mandat d'arrêt contre David Koresh pour différents crimes, mais le reste du monde, là, les suiveux, les, je sais pas comment les appeler, les gens.
Endoctrinés, là.
Moi, ouais, les endoctrinés.
Les membres.
C'est ça. Les membres étaient pas armés. Étaient pas armés. Oui, il y avait des armes dans la maison, mais c'était pas des terroristes. C'était pas des, tu sais, le Clive Doyle, là, qui a été accusé du meurtre des 4 gars de l'agence qui sont morts. Pourtant, il était à 90 au-dessus. Fait que, et l'avocat de la couronne a commencé le procès en disant les 11 survivants de Waco, on va vous démontrer qu'ils avaient des armes dans les mains, qu'ils voulaient tuer des agents, et ils ont jamais été capables, parce que là-dedans, il y avait des filles qui savaient même pas c'était quoi une arme, qui savaient même pas s'en servir, qui savaient même pas vraiment qui tirait de où. D'ailleurs, tous les objets qu'on a retrouvés suite à l'incendie, sauf une porte, ça c'est assez extraordinaire, il y avait une porte double devant la maison, et on en a retrouvé rien qu'une, parce qu'il y en a une qui démontrait clairement que les trous de balles étaient unidirectionnels, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ça démontrait que ces gens-là, d'ailleurs les 11 Davidiens dont je vous parle, ont été acquittés. Et ce que ça m'a fait réaliser, c'est que oui, David Koresh était tout qu'un fêlé, était quelqu'un qui a emmené ces gens-là vers la mort, mais qu'il aurait dû l'arrêter sans faire un gros show. Ce gars-là allait à tous les jours, ça j'en venais pas, il allait aux danseuses. Il allait au village, à la ville de Waco, il allait aux danseuses. Puis là, les Davidiens disent, ben s'il avait voulu l'arrêter lui, le seul mandat qui existait, c'était contre lui. Il avait qu'à l'arrêter quand il allait aux danseuses, quand il allait à l'épicerie ou quand il sortait de la résidence. Ben non, ils ont voulu faire un coup d'éclat. Et c'est assez étonnant de voir que le gouvernement américain a créé ces 82 morts-là. Ces gens-là ont été blanchis. Il y a un policier qui était dans l'intervention et qui dit avoir vu dans les survivants des gens avec des armes, il dit des visages, j'en oublie jamais, je sais exactement, c'est quand je vois un visage, je le reconnais, puis je peux pas l'oublier, j'ai cette capacité-là de reconnaître, et j'ai vu lui, sur les lieux avec des armes. Et le hasard des choses fait que l'avocat de Clive Doyle, lui c'est un jeune avocat, il a une moto sport. Et lui, il regarde dans les témoins, et le témoin le plus important, c'était un de ces policiers-là qui disait être capable d'identifier clairement les criminels. Il dit qu'il n'oublie jamais un visage. Et là, ils le font répéter cette phrase-là. Non, j'oublie jamais un visage. Quand je vois un visage une fois, c'est sûr que je m'en souviens, puis je me souviens d'eux autres. Et l'avocat dit que je connais ce gars-là. Je le replace pas, je le connais. Il fouille dans sa tête. Et 4 mois auparavant, l'avocat avait une moto sport. Et il s'est fait arrêter à 240, probablement kilomètres heure. Il s'est fait arrêter avec sa motosport par cette policier-là. Et il a été arrêté, puis il a été baveux. Il disait qu'il essayait la moto et tout ça. Et on a exigé... le pire, c'est qu'il n'y a même pas eu une étiquette. Il y a eu un avertissement pour vitesse excessive signé de ce policier-là. Alors, ils l'ont fait répéter qu'il reconnaissait tous les visages. Et l'avocat en charge est arrivé et dit, OK, me connaissez-vous? Non. M'avez-vous déjà vu? Non. Je vous le répète, est-ce que vous m'avez déjà vu? Non, je vous ai jamais vu, j'en suis certain. Et il est arrivé, puis il a mis le ticket ou le l'avis d'infraction.
Si il y avait à taxe payé dans le casque,
je sais, j'ai pensé à ça, puis mais tu sais, en voulant dire, ouais, mais quand quelqu'un affirme qu'il connaissait, et les 11 ont été blanchis.
Ouais. En cours d'arrivée avec un argument majeur qui est « je me souviens toujours d'un visage ». Là.
C'est ça.
Ça tient, c'est pas fort comme c'est argument. Là.
Fait que c'est impressionnant de voir ça, donc de voir comment ces gens-là... Mais ça m'a fait voir la tragédie d'une façon différente. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'on ne risquerait pas la vie de 80 personnes.
Mais surtout sachant que le gars s'en allait une fois de temps en temps au village.
Il sortait.
Seul,
sauf que tu le savais pas que ces 80 personnes-là, c'est eux qui ont foutu le feu. Là, quand
ben, c'est quelques-uns.
Ouais,
là,
ben, tu savais pas comment ils pouvaient réagir. Là, mettons que tu es un policier, tu dis jamais ils vont se mettre en danger.
Oui, mais ces sectes-là, c'est comme la secte de l'Ordre du Temple solaire au Québec là, qui a eu des morts. Et tu sais, ils sont manipulés par un ou deux, trois gourous. Là. Un gourou qui, lui, manipule directement des gens qui ont une influence sur ceux d'en dessous. Mais le monde en dessous, là, sont juste en admiration vers le gars au-dessus qui a des idées complètement fuckées.
Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si... Ben là, en même temps, j'ai pas de formation. Je sais pas si, en tant que policière, je me serais dit « Hey, c'est sûr qu'ils vont tous se tuer avant qu'on arrive. »
Ouais.
Pas sûr.
Non, mais pourtant, c'est arrivé à plusieurs reprises dans des sectes comme ceux-là.
Soit un gourou va s'en prendre à ses membres pour pas qu'eux aient divulgué de l'information ou quoi que ce soit, là.
C'est ça. Mais là, c'est le contraire. C'est que le gourou, s'il avait été retiré de là, on aurait probablement évité ce bain de sang-là. C'est ça qui est triste. Écoute, il raconte comment ils ont trouvé les corps de plusieurs enfants. Là, sur 82, je me souviens pas comment il y avait d'enfants. Là. Et comme lui, là, Clive Doyle, qui était accusé du meurtre des quatre agents, qui a été libéré, et a tout simplement dit, écoute, moi, ma fille est morte dans cet événement-là, quand l'incendie, et on a retrouvé le corps des enfants, complètement calciné, c'était épouvantable. Et d'ailleurs, les survivants sont allés témoigner devant le Congrès américain pour démontrer comment le FBI aurait dû agir différemment face à une secte comme ça. Puis ça, j'espère qu'on va retenir, parce que des sectes, il y en a de plus en plus, là. Il y en a de toutes les sortes. Et écoute, hier, c'est-tu dans le bulletin de nouvelles de Radio-Canada? Il y a une secte, une religion. Oui, c'est l'affaire sur les Indes. Il y a une religion en Inde qui est, t'sais, premièrement, une religion. Mais c'est d'être... on mange pas de viande.
Végétarien.
C'est une religion végétarienne. Non, mais plus que ça. Qui ne mange que ce qui ne pousse pas dans la terre. Ça peut pas pousser dans la terre, il faut que ça pousse en dehors de la terre.
C'est une patate,
il mange pas ça. Une carotte.
Une betterave.
Ce qui pousse dans la terre, il en mange pas. Il faut que ça pousse à l'air libre. C'est ça leur religion, eux autres. C'est-tu assez fucky? Fait que, c'est ça. On est entouré de gens bizarres.
Hein. Ouais, à qui dis-tu? Hein?
Oui, effectivement. OK, on revient dans un instant. Vous êtes dans Dupont le matin.